Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'épître de Paul à Tite et le chapitre 2. Et je voudrais vous lire ces versets à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Et le sujet que nous allons aborder dans cette étude s'agit de la grâce de Dieu manifestée. L'idée de la grâce de Dieu manifestée. Comment est-ce que Dieu manifeste sa grâce? Ici, dans Tite, chapitre 2 et le verset 11, l'apôtre Paul écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors voilà où dont le titre est tiré. Cette grâce de Dieu a été manifesté. Et voilà ce que nous apprenons concernant cette grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alors c'est évident que nous avons ici les instructions données à Tite en tant que prédicateur de la grâce de Dieu, de ne pas prêcher autre chose que la grâce de Dieu. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui se disent prédicateurs de la grâce de Dieu, mais ils aiment ajouter des parties qui concernent l'homme, ou bien une partie qui concerne la loi de Dieu, et maintenant ils en font un mélange qui, par finir, devient autre chose que d'être un message pur et simple de la grâce de Dieu. Alors, vous voyez pourquoi, dans le verset 15, Paul donne cette instruction à Tite de ne pas dévier de ce message de la grâce de Dieu. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Il y en a qui pensent que lorsque quelqu'un tombe dans le péché, alors là, il faut venir avec la loi. Il faut imposer la loi. Il faut censurer. Ça, c'est comment beaucoup interprètent la parole de Dieu. Mais notez bien dans le verset 15, quelle que soit la situation, ce message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ suffit pour toute situation. Dis ces choses, exhorte. Comment est-ce que nous devons exhorter d'autres si ce n'est selon cette grâce de Dieu envers des pécheurs en Jésus-Christ? Et comment est-ce que nous pouvons reprendre? Parce que nous avons tous besoin d'être repris. Cela veut dire corriger. Nous sommes comme des enfants. Et étant des brebis, notre tendance est de dévier. Mais ce message de la grâce de Dieu suffit pour reprendre, et cela avec une pleine autorité. Quand on voit ce mot autorité, cela ne signifie pas de frapper des gens avec le fouet de la loi et exiger à ce qu'ils vivent d'une certaine manière. Non. Prêchons la grâce de Dieu. Cette même grâce de Dieu qui nous a sauvés par le sang de Jésus-Christ et cette grâce maintenant qui attire le pécheur envers le Seigneur Jésus-Christ et lui donne ce désir de suivre le Seigneur. Voilà la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce dont Paul dit ici qui a été manifestée. Alors revenons dans le verset 11. Pourquoi manifester? Le sens du mot manifester signifie que c'est quelque chose qui est d'abord caché, qui doit être révélé. Et on peut comprendre cela en ce qui concerne la grâce de Dieu, parce que Dieu est éternel. Il est spirituel. Et il ne peut être aperçu par les yeux naturels, mais c'est par des yeux spirituels. Et cela, lorsque l'Esprit de Dieu lui-même daigne manifester, voilà le mot, cette grâce de Dieu dans le cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ a souligné cela avec Nicodème lorsqu'il a attiré vers lui. C'est vrai, c'est écrit qu'il est venu durant la nuit et il y en a qui trouvent une faute en cela. Il disait que Nicodème avait honte de venir pendant la journée. Non, mais c'était un homme qui avait des occupations pendant la journée. Donc, il est venu la nuit, mais je dois dire qu'il est venu parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a attiré, exactement à ce moment-là. Alors, quand il est venu, il a commencé à faire des remarques sur le Seigneur Jésus-Christ, disant dans le verset 2, Jean 3, 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, il avait une certaine manière d'appréhender Christ, certaines parties de Christ qui sont vraies, mais on peut discerner peut-être certaines vérités sans voir la vérité. Et voilà encore, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas une question d'opinion des hommes, mais ça doit être une grâce qui révèle Christ en toute sa plénitude, en toute sa vérité. Alors Jésus lui répondit, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut apercevoir le royaume de Dieu, voir spirituellement, comprendre, saisir celui qui est la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ici, signifie naître d'en haut. C'est une œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ par son esprit, l'esprit de grâce. Et donc, c'est l'esprit de grâce qui manifeste celui qui représente la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez comment Nicodème était au début confondu. Verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et cela prouve que des gens peuvent peut-être saisir certaines parties de la vérité, même en lisant la Bible, dans un sens naturel, et s'efforcer à comprendre. Mais ce n'est pas nos efforts personnels qui vont faire manifester la grâce de Dieu. De dire que la grâce de Dieu est manifestée signifie que c'est une œuvre que Dieu lui-même fait à l'égard du pécheur. Mais voilà Nicodème qui t'entend. Alors Jésus répondit, et ce que j'apprécie ici, c'est que la vérité, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus n'a pas changé son message pour simplifier ça, pour que Nicodème, par son propre intelligence, pouvait maintenant appréhender le Seigneur Jésus. Il dit simplement, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Voilà encore Si des gens lisent cela d'une manière naturelle, ils vont dire, ah voilà, l'eau représente le baptême. Et puis, donc, c'est à travers le baptême que l'Esprit est donné. Non. Christ est en train de donner ici une illustration. De la même manière qu'un bébé entre dans le monde par la naissance physique, parce qu'il faut dire que le bébé vit dans le sein de sa maman, dans un sac d'eau, jusqu'à ce que c'est le moment maintenant de sortir. Et cette naissance physique représente la naissance spirituelle. De la même manière que je n'ai pas eu quoi que ce soit à faire dans ma naissance physique, je suis né, j'étais conçu par Dieu lui-même, faisant de moi maintenant un être humain, et de là, je suis sorti, né dans ce monde. De cette même manière, je n'ai rien à faire en ce qui concerne ma naissance spirituelle. Plutôt, c'est une œuvre de l'esprit. Et voilà comment on doit comprendre cela dans le verset 5. Si un homme naît d'eau, le mot est là peut signifier aussi même d'esprit. Donc, il s'agit ici d'une œuvre de l'Esprit de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là encore, il ne faut pas imaginer que le royaume de Dieu est quelque chose seulement dans l'avenir. Entrer dans le royaume de Dieu signifie apercevoir le Seigneur Jésus-Christ et voir notre besoin de son salut, ce salut qu'il est venu accomplir. Et d'être attiré à lui, entrer dans son royaume, venir et se prosterner devant lui comme le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Si quelqu'un naît dans ce monde, mais l'Esprit de Dieu ne fait pas une œuvre de grâce en lui pour manifester cette grâce en Jésus-Christ en lui, il va mourir comme il a vécu. Dans la chair. Et puis, c'est le jugement éternel. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, cette grâce de Dieu qui est manifestée dans le cœur des pécheurs pour qui Christ est venu dans ce monde sauvé. Mais c'est aussi manifesté parce que c'est caché. Il faut que l'Esprit révèle cette grâce. C'est manifesté à travers la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi encore Paul dit à Tite de ne pas avoir autre message que cette grâce de Dieu en Jésus-Christ et de prêcher cela, exhorter, reprendre selon cette grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce de Dieu, c'est de savoir que le prédicateur lui-même n'est rien à part la grâce de Dieu. Même dans sa prédication, si le prédicateur prend les meilleures illustrations et il essaie d'une manière simple à expliquer les points simples du salut, ceux qui l'écoutent ne peuvent jamais comprendre, appréhender ce qu'il dit, si ce n'est que l'Esprit de Dieu prenne le message de l'Évangile et ouvre le cœur, ouvre les yeux de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et là, maintenant, la grâce de Dieu est manifestée. Donc, pour tout cela d'être une réalité, il faut dire que cette grâce de Dieu dont Paul parle ici dans Tite, chapitre 2, le verset 11, notez bien, la grâce de Dieu, source de salut. Cette grâce de Dieu qui est la source du salut de ceux qui sont sauvés, s'est manifestée, quand c'est écrit, a été manifestée. Il s'agit là de la première venue du Seigneur Jésus-Christ dans la chair. On ne pouvait jamais appréhender Dieu si ce n'est que Dieu lui-même est venu d'abord dans la chair et se faire manifester à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça surtout dans le livre d'Hébreux et le chapitre 1. C'est écrit dans le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors voilà le Fils de Dieu qui est éternel. Donc avant sa venue, cette grâce n'a pas été manifestée encore dans la personne de Christ. Tous ceux de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham ou David, Jacob, ils anticipaient cette manifestation. Mais ils vivaient dans l'ombre de la loi. C'est comme ça que l'apôtre utilise ces termes ailleurs dans ses épîtres. L'ombre de la loi. Ils habitaient, ils vivaient dans l'ombre en anticipant le jour où cette gloire, cette grâce serait manifestée dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, c'est par lui que le monde a été créé, mais le monde a été créé et Christ établi héritier de toutes choses, comme c'est écrit dans Hébreux 1-2. Mais il fallait maintenant que ce Fils de Dieu, c'est comme ça aussi le verset 2, l'appelle Dieu dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. On peut comprendre par là, a été manifesté par le Fils, venant dans la chair. Si vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire pour Christ de venir dans la chair? C'est parce que Dieu, dans sa nature, est esprit. Et Dieu ne peut pas mourir. Mais l'homme, qui est pécheur, et Dieu maintenant voulant sauver des pécheurs, c'était nécessaire que Dieu lui-même prenne chair et qu'il vienne et qu'il souffre comme les pécheurs qu'il est venu sauver. Et à travers cette souffrance, en maintenant établissant une justice parfaite à l'égard de ces pécheurs que Dieu, depuis l'éternité, a choisi de sauver, maintenant Christ est venu pour accomplir le salut. C'est pourquoi la grâce de Dieu, source de salut, a été manifesté en Jésus-Christ. Est-ce qu'il est venu? Oui. Est-ce qu'il a accompli ce qu'il est venu faire? Oui. Il ne serait pas Dieu si en quelque chose il a fait faille. Il a fait faille, non? C'est écrit ici que même lorsqu'il était dans la chair, parce qu'il était le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, imaginez prendre toutes les galaxies et maintenant placer cela dans une seule personne et à travers lui maintenant la lumière brille. Parce que Christ a dit qu'il est la lumière qui est venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas appréhendé. Pourquoi? Aveugle et mort dans ses péchés. Mais au moment voulu, maintenant l'Esprit de Dieu amène à la vie spirituelle ce que le Père a donné à son Fils et pour qui il est venu dans ce monde. En cela aussi, il ne peut pas faire faille. Quand il est venu souffrir et mourir, et ressusciter, c'est afin qu'il ne perde rien, il dit, de ce que le Père lui a donné. Mais est-ce qu'il a accompli sa mission? Ici, dans Hébreux 1-3, c'est écrit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait la purification du péché. Donc voilà comment la grâce de Dieu est manifestée en Jésus-Christ, dans la chair. C'est dans le fait que sans condition placée sur les pécheurs qu'il est venu sauver, Christ lui-même a accompli leur salut. Il a fait la purification des péchés. Je te dis que si Dieu purifie le pécheur est purifié. Et notez dans l'épître aux Hébreux, c'est mis comme un fait accompli. Il y a beaucoup aujourd'hui qui imaginent que oui, il faut qu'on regarde à Christ pour avoir la purification des péchés. Et c'est comme le savon, il faut prendre chaque jour, se laver, prendre sa douche. Non. Cette purification de péché que Christ a accomplie à la croix a rendu pur et parfait chacun de ceux que le Père lui a donné. C'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le sang de Christ qui nous purifie. C'est ce sang déjà versé. On n'est pas en train d'attendre à ce que ça soit appliqué par nous-mêmes, comme si on prend de l'eau pour se laver. Non. C'est quand Dieu a vu ce sang versé de son Fils qu'il a maintenant déclaré une fois pour toutes justifié, juste, tous ceux pour qui Christ est venu dans ce monde. Maintenant, quand on revient dans Tite chapitre 2, voilà pourquoi on doit faire attention à chaque mot. Parce qu'il y en a qui lisent dans le verset 11, par exemple, « Car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. » Quand ils voient cette phrase « tous les hommes », ils imaginent que cela veut dire chaque individu dans le monde. Mais cela est impossible parce que si Christ a rendu son œuvre efficace pour chaque individu du monde entier, cela veut dire que chaque individu dans le monde entier est maintenant purifié. Et cela, nous savons que ce n'est pas ce que enseigne la Bible. Mais pour tous les hommes dans le sens ethnique, que ce soit les Juifs ou que ce soit les païens, ils appelaient le reste du monde païen, peu importe, Dieu a un peuple dans le monde entier pour qui Christ est venu et c'est pour eux que Christ est la source du salut pour ces hommes-là. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 5, c'est écrit, et cela devant le trône de Dieu. Donc, nous avons ici une vision du ciel et ce qui se passe au ciel. Et le verset 9, Apocalypse 5, 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, notez bien, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est important. Ça ne dit pas qu'il a racheté tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, mais tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, voilà pourquoi la Bible utilise cette expression « tous les hommes », toutes sortes d'hommes, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur culture. Christ est venu pour sauver ce peuple que Dieu a choisi depuis l'éternité. Alors, c'est en cela que nous voyons la grâce de Dieu manifestée. Mais je dois dire que lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, c'est toujours manifester sans condition. Voilà le sens de ce mot grâce, sans condition. Je sais que les hommes aiment mettre des conditions sur la grâce. Et même la manière qu'ils prêchent leur évangile, et je dis leur évangile parce que ce n'est pas l'évangile de la Bible, mais ils prononcent des paroles en promettant la grâce de Dieu au pécheur si le pécheur fait d'abord la première geste, si le pécheur lui-même prend le premier pas. Donc Dieu fait le reste. Voilà comment le message moderne est prêché par des hommes. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand c'est écrit ici, dans le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut. Le mot source là signifie que tout le salut est dans cette source. Pour tous les hommes, qui que ce soit, si un pécheur désire le salut, cette grâce de Dieu a déjà été manifestée. Notez, c'est mis au temps passé, a été manifestée. Cela veut dire que cette grâce, source de salut pour tous les hommes qui sont sauvés, a déjà été manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement qui peut être posé que ça. Alors, prêcher cette grâce de Dieu et de prêcher cette grâce sans condition, c'est un don de Dieu que Dieu fait en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais la deuxième chose, quand on parle de la grâce de Dieu manifestée, c'est en Jésus-Christ, mais cette grâce de Dieu manifestée amène une certaine discipline dans le cœur et la vie de celui qui est l'objet de cette grâce. C'est pourquoi dans le verset 12, nous lisons, elle nous enseigne. Donc voilà, l'école de grâce. Il y en a qui me demandent souvent où ils peuvent aller apprendre l'évangile dans une école quelque part. Et je dois dire que on n'apprend pas l'évangile dans les institutions humaines. Il n'y a pas d'école en ce qui concerne les briques et le ciment où vous pouvez aller vous asseoir et apprendre la grâce de Dieu. Donc, cette grâce manifestée en Jésus-Christ est apprise dans l'école de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'école de Christ. Quand c'est écrit ici, dans le verset 12, elle nous enseigne, parlant de la grâce de Dieu, et on a déjà établi dans le verset 11 que la grâce de Dieu s'agit de Christ. Donc, on peut remplacer ce mot « elle » par « Christ ». Christ nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ouais, la grâce de Dieu est dans la personne de Christ et là où il y a l'esprit de Christ et l'esprit de Christ. Ce n'est pas les règlements des hommes, ce n'est pas des conditions humaines, ce n'est pas des lois quelconques qu'on peut imposer, non. Christ, la grâce de Dieu en Christ, nous enseigne. Et le mot enseigner, quand quelqu'un est enseigné, cela veut dire, il a appris maintenant de Christ. Et voilà le sens ici. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que l'impiété? C'est tout ce qui est contraire à la gloire de Christ, c'est l'impiété. Les bonnes œuvres que les hommes prêchent. La Bible les appelle l'iniquité. C'est l'impiété parce que ça provient de l'homme. Tout ce qui n'est pas fondé sur Christ et Christ seul et son œuvre accomplie au calvaire est de l'impiété. Et chercher autre moyen de venir à Christ. C'est ce qu'on appelle ici des convoitises mondaines. Je dois dire que dans les assemblées aujourd'hui, il y a beaucoup de convoitises où les gens cherchent leur propre gloire. Ça, c'est une convoitise mondaine. Ou bien ils cherchent le bonheur, ou bien ils cherchent le bien-être, ou bien ils cherchent à s'enrichir. Voilà les convoitises mondaines. Et tout cela se passe dans les assemblées, les milieux où on prétend prêcher la grâce de Dieu, parce que les gens prennent la Bible, ils disent, well, mais nous prêchons la Bible. On parle ici de Christ. Mais si on pouvait vraiment voir dans le cœur, on voit maintenant que ce sont des hommes naturels qui font même du message de la Bible un message pour un gain sordide. Cela veut dire pour leur propre intérêt. Alors, tout cela, nous voyons ici dans verset 12, Christ nous enseigne, lorsque Christ est manifesté, lorsque Christ est révélé, ça nous enseigne à renoncer à tout cela. Nous ne pouvons pas continuer dans ces milieux-là où ce n'est pas pour la gloire de Christ. Et donc, ça nous enseigne encore à vivre dans le siècle présent. C'est intéressant, ici, dans ce passage, il y a trois temps. Il y a le temps passé, dans le verset 11, où la grâce de Dieu a été manifestée. Il y a le temps présent, dans le verset 12. Et encore, cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux à qui Dieu donne cette foi. Et c'est ça qui anime, par l'esprit de la grâce de Dieu, anime chacun à vivre dans le siècle présent. Comment? Selon la sagesse, toute sagesse de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Et la justice, là encore, justifiée par l'œuvre de Christ. Et puis la piété. On a déjà vu, cette piété signifie la révérence. Cela veut dire une soumission à Christ en toutes choses pour son honneur et sa gloire. On n'a pas besoin d'éducateurs humains pour nous apprendre cela, non. On ne peut pas apprendre cela des hommes. Ça vient de la grâce de Dieu. Donc, il y a un aspect présent de cette grâce manifestée, un aspect passé, verset 11, un aspect présent, verset 12, mais notez bien, futur, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance. Tout le monde, en quelque sorte, a une espérance pour le futur. Mais il y en a que leur espérance n'est pas fondée sur la vérité. Ils espèrent vivre une bonne vie basée sur leurs efforts. Ils espèrent gagner le ciel par leurs efforts. Ça, ce n'est pas une bonne espérance. Cette bienheureuse espérance. Et notez bien, dans le verset 13, ce mot encore. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et le mot « et » là signifie aussi « même de notre Sauveur Jésus-Christ ». Donc, de la manière que la grâce est représentée en Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, aussi toute bienheureuse espérance dépend de lui. Il y en a qui attendent le retour du Christ, mais pas pour les raisons bibliques. Ils imaginent que lorsqu'il reviendra, que là, alors tout ira bien, ils espèrent avoir une bonne place au ciel. Et les convoitises mondaines mentionnées dans le verset 12, puisque c'est ça qui remplit leurs pensées, donc ils imaginent que le ciel serait un paradis où ils auront tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir dans ce monde. C'est toujours les convoitises mondaines. Mais je dois vous dire, chers frères, que toute bienheureuse espérance n'a qu'un seul espoir, et c'est de voir Christ qui est la gloire, notez bien les mots, du grand Dieu. Donc c'est lui qui est la gloire manifestée de Dieu, comme il est la grâce manifestée de Dieu. L'espérance de tout véritable pécheur racheté par Christ, c'est de vivre avec Christ pour l'éternité, voir Christ pour l'éternité, apprendre Christ pour l'éternité, être avec Christ pour l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit au brigand ce jour qu'il est mort sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Voilà ce qui est le paradis, c'est d'être avec Christ. Et Christ ayant racheté ce peuple, son honneur et sa joie, c'est d'avoir auprès de lui pour l'éternité chacun pour qui il a payé cette dette. Ah, quelle grâce, quelle espérance. Et c'est de ça qu'il parle dans le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Ouais, le salut du début jusqu'à la fin, c'est selon la grâce de Dieu. La source de salut pour tous les hommes. Cette grâce manifesté dans l'élection depuis l'éternité. Dieu a choisi ceux qu'il veut sauver. C'est grâce de Dieu qui, autant voulu par Dieu, est venu dans ce monde, est manifesté dans ce monde à la personne de Christ. Et c'est là que maintenant cette grâce était manifestée dans sa grandeur. C'est lorsque Christ est venu donner sa vie, notez, donner lui-même pour nous. Je n'étais même pas encore né. Pourtant, si je suis un élu de Dieu, c'est que depuis l'éternité, j'étais déjà donné à Christ. Et lorsque Christ est mort, c'est à ma place qu'il est mort. Et lorsque maintenant l'Esprit de grâce mes données et mes yeux ouverts, ce n'est pas là que je suis sauvé, mais c'est là que je suis, la grâce de Dieu est manifestée pour que je sache ce que Christ a accompli et voir que mon salut était accompli lorsqu'il est mort, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Ça, c'est un mot très important. Racheter signifie que j'étais esclave. Jusqu'au moment où Christ est venu mourir et donner sa vie, où il a dit « tout est accompli », on était encore sous cette servitude du péché, de la loi de Dieu, la condamnation. Mais il nous a rachetés de toute iniquité. Là encore, ça revient à la source, source du salut pour tous les hommes, de qui que ce soit. Si quelqu'un espère être sauvé, donc c'est dans cette source qui est le rachat, qui est la rédemption, la rançon payée pour toute iniquité. Notez, de toute iniquité. Il y en a qui pensent que Christ est mort seulement pour les péchés jusqu'au moment où un pécheur croit, mais après ça, maintenant, le pécheur a une comptabilité à confesser et à effacer ses péchés, autrement ses péchés vont rester sur son compte. Non, de toute péché, toute iniquité, c'est écrit là, n'est-ce pas? Afin de nous racheter de toute iniquité, passé, présent, futur. Vous savez que si Christ est mort pour nous et nous n'étions pas encore nés lorsqu'il est venu dans ce monde, cela veut dire que tous nos péchés étaient encore futurs. Je n'étais même pas encore né. Donc, même pour ces péchés, Christ est mort. Et cela veut dire maintenant, il n'y a aucune condamnation. Ah, voilà la joie de connaître la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et de se faire, c'est écrit, un peuple qui lui appartienne. Donc, ce n'est pas simplement que Dieu a élu un peuple, parce qu'on peut dire, oui, par l'élection, les pécheurs appartiennent à Christ, mais ici, c'est attaché à son œuvre accompli à la croix. Et c'est là même le prix étant payé qu'on pouvait dire alors, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés. Cette œuvre de la mort de Christ étant accomplie. Et c'est écrit purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà la différence. Parce que beaucoup dans la religion, ils sont zélés pour les bonnes œuvres, imaginant que ces œuvres vont maintenant sceller leur place auprès de Dieu. Mais ici, ouais, c'est à la fin. Si nous sommes rachetés par Christ et nous appartenons maintenant à lui, purifiés déjà par lui, donc cette purification n'est pas une activité continuelle. Notez, purifié déjà par lui, alors vient maintenant ce zèle pour les bonnes œuvres. Ce que je fais pour Dieu, je fais par la grâce de Dieu. Voilà une bonne œuvre, parce que c'est cette grâce en Christ qui m'est donnée, qui m'est manifestée, qui maintenant est le mobile spirituel de tout ce que je fais. Zélé pour les bonnes œuvres. Je fais ce que je fais par la grâce de Dieu, c'est tout. Ce n'est pas une obligation. Et Dieu ne m'oblige pas non plus, parce que je suis déjà son fils, libéré par l'œuvre de Christ et cette grâce manifestée en lui. Voilà le message que Paul dit à Tite, qu'il doit prêcher, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Et voilà à la fin, verset 15, que personne ne te méprise. Quand on entend un message comme ça, on se demande, mais qui pouvait ne pas vouloir un tel message, une telle grâce? Mais je dois dire que telle est la rébellion dans le cœur des hommes qui sont encore dans les ténèbres et en qui cette grâce n'a pas été manifestée. Il y a une rébellion contre ce message, contre ce Christ. Parce que l'homme veut toujours lui-même tenir une partie de la gloire, mais je dois vous dire que ce message de la grâce de Dieu ne donne aucune gloire à l'homme. Toute la gloire revient à Christ. Et si pour cela, les hommes nous méprisent, donc nous nous remettons à Dieu, qui est le juste juge des hommes. C'est possible que ceux qui nous méprisent soient encore des gens pour qui Christ est mort et l'Esprit, la grâce de Dieu n'a pas encore été manifestée en eux. Je sais que si Christ est mort pour eux, le temps viendra où l'Esprit de la grâce de Dieu va les attirer à Christ. Et là, nous pouvons nous réjouir ensemble. Mais c'est aussi peut-être des gens que Dieu laisse à eux-mêmes. Ils continuent dans leur religion, leur zèle pour les œuvres, excités par les émotions et les convoitises modernes qu'on a vues dans le verset 12. Et c'est comme ça qu'ils vont mourir avec une fausse espérance et non pas cette bienheureuse espérance qui est manifestée en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce moment que nous avons passé dans ta parole. Et nous te remercions de nous avoir donné cette occasion et que toi-même, dans ta grâce, maintenant, tu agis dans nos cœurs à travers cette parole pour ta gloire et ta gloire seule. Et c'est dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen.